remercier Joël pour l'invitation, Alexandra de nous avoir si bien reçus à sa table à midi. C'est toujours des moments chaleureux que nous passons avec vous et nous vous en remercions. On va ensemble ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Michée au chapitre 6 et au verset 8. On va aller dans ce petit prophète, petit non pas par le message qu'il a apporté, non pas par sa personne. On appelle ces petits prophètes parce que c'est des livres assez courts dans la parole de Dieu. Mais on va donc dans le livre de Michée au chapitre 6 et au verset 8. Peut-être vous êtes-vous, pendant que vous cherchez cette référence, peut-être vous êtes-vous déjà posé sa question: qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu demande de moi? Qu'ai-je à lui offrir? Peut-être avez-vous remarqué qu'il y a certaines personnes qui ont cette vision un peu religieuse de la personne de Dieu. Il faut lui donner, il faut lui offrir ceci, cela, il faut faire ceci et encore cela. Et quand nous avons fait ces choses, il faut encore faire autre chose pour essayer, espérer un jour atteindre sa personne. Ce n'est pas ce message que nous trouvons dans la parole de Dieu, ce n'est pas ce message que nous prenons, ce que nous annonçons. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Est-ce que cela serait hors de ma portée? Je vous propose la lecture de ce texte et on va ensemble simplement le méditer. Michée, chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Je propose qu'on relise ce verset, on le fait rentrer dans nos mémoires. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Il y a trois éléments qui nous sont donnés ici. On va s'arrêter sur chacun d'entre eux. On terminera ce message avec la première partie de ce verset. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Mais d'abord, arrêtons-nous sur ces trois éléments. Ce que Dieu demande de toi, de moi, de nous, c'est que nous pratiquions la justice. Je ne pense pas qu'il y ait devant moi cet après-midi de grands criminels. Je pense que nous arrivons à pratiquer la justice des hommes et encore que, il n'y a pas si longtemps que ça, ma conscience a été reprise. J'étais au volant de ma voiture et je rentrais de la région lyonnaise et arrivé au péage juste à Albertville. Il ne me restait plus que quelques minutes pour arriver à la maison. J'ai vu que les barrières de péage étaient ouvertes. J'ai vu qu'il y avait des hommes et des femmes sur le bord de l'autoroute, étrangement vêtus. On entend quelque peu cela aux informations. Ils avaient, ma foi, des gilets jaunes. Et ils étaient devant les barrières de péage et ils avaient ouvert grand les barrières et sans réfléchir plus que ça, je me suis engagé, la barrière était ouverte et je me suis dit, eh bien aujourd'hui l'autoroute est gratuite. Et au moment où j'ai passé la barrière, c'est quelque chose d'automatique, il y a une alarme qui s'est déclenchée. Je n'avais pas payé. Et ma conscience a été reprise en disant, mais est-ce que vraiment tu avais le droit de faire ça? Est-ce que si parce que quelqu'un va bâillonner la caissière quand on arrive au moment de payer dans le supermarché notre chariot plein, est-ce que si la caissière est bâillonnée, les mains liées, ça nous donne le droit de passer sans payer? Ma conscience a été quelque peu reprise. Ce que Dieu demande de nous, c'est que nous pratiquions la justice. Bien sûr, nous le faisons pour celle des hommes, nous nous efforçons à le faire pour celle des hommes, mais la justice de Dieu, accomplir la justice de Dieu, pratiquer la justice de Dieu, qui est suffisant pour cela? Il y a dans le ciel un Dieu saint, un Dieu glorieux, qui est suffisant pour réussir à pratiquer cela. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Est-ce que c'est à ma portée? La parole de Dieu dit, et elle a raison de le faire, qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et devant cette recommandation-là, nous avons, vous et moi, échoué à pratiquer, à accomplir pleinement la justice de Dieu. Pas de juste, pas même un seul. Et cela est au-delà de la portée de l'être humain. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Faut-il fermer nos Bibles, arrêter cette lecture en disant « Mais nous sommes pécheurs, rendus coupables et donc condamnés par la loi de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous pratiquions la justice. Nous n'avons pu y arriver, alors nous sommes condamnés. » J'aimerais mettre cela en parallèle avec un texte du Nouveau Testament, avec deux textes. On commence par 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. C'est là toute la beauté du message de l'Évangile. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. « Celui qui n'a point connu le péché, à savoir Jésus-Christ, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Il y a là la beauté du message de l'Évangile. Si Dieu attend de l'homme qu'il pratique la justice, il est nécessaire que l'homme reconnaisse qu'il n'est pas parvenu à le faire, il n'a pas réussi à le faire. Mais dans son amour, Dieu a pourvu. Il a donné Jésus, il a envoyé son Fils, son unique. Celui-ci est venu sur terre. On va se souvenir aux périodes de Noël de sa naissance. Pour nous chrétiens, on le fait bien plus qu'aux simples périodes de Noël. Mais notre monde va se souvenir, quoique quelquefois le message de Noël s'est un peu décalé de cette annonce. Mais le monde va se souvenir de la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ a accepté pour un temps de quitter le ciel, de quitter la gloire du ciel pour venir nous rencontrer. Et lui, le seul, a réussi pleinement à pratiquer la justice. Lui le seul a pleinement accompli les ordonnances divines. Lui le seul a été trouvé sans péché. Mais le verset que nous venons de lire nous témoigne de l'immensité de l'amour de Dieu, de l'immensité de l'amour de Jésus-Christ pour nous. Il l'a fait devenir péché pour nous. Et derrière cette expression, il y a tout le message de la croix. Si Jésus est né pour venir rencontrer l'humanité, s'il a grandi en pratiquant pleinement la justice de Dieu, il est pur, juste et sans péché. La Bible nous signale que ce juste-là, il a accepté d'offrir sa vie en sacrifice pour nous qui étions coupables. Si nous n'avons pas su répondre pleinement à la justice de Dieu, lui l'a fait. Et sur le bois de cette croix, il a porté le poids de nos péchés. Il a porté le poids de nos iniquités. Il s'est chargé de ces choses, vous savez, qui sont dans le fond de notre cœur, que si peu de personnes connaissent et qui nous font quelquefois souffrir. On cherche à donner une belle apparence autour de nous, mais nous connaissons les tréfonds de nos cœurs et cherchons à cacher, masquer bien des choses. Mais Christ, sur la croix, il a accepté de prendre ces choses les plus sales. Il les a portées à notre place, pour que le pécheur repentant n'ait plus à supporter la condamnation de ces choses. Celui qui n'a point connu le péché, Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui reçoit Jésus, celui qui l'accepte, qui reçoit dans la foi ce message de l'Évangile, alors Jésus-Christ le pardonne et Jésus-Christ établit en lui la justice de Dieu. Amen. Dieu se propose en Jésus de venir suppléer à notre manque. Il fait en Jésus de nous des hommes et des femmes justes, justifiés, rendus justes aux yeux de Dieu. Et puis je fais un lien avec un deuxième texte dans le livre des Corinthiens, mais cette fois dans la première épître, au chapitre 1 et au verset 30. 1 Corinthiens, chapitre 1. Verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Expliquons-le en quelques mots. En quittant le ciel, en venant nous rencontrer sur la terre, en vivant sans péché, en offrant sa vie pour nous dégager de nos fautes et de nos péchés, Christ a été tout cela pour nous. Sagesse, justice, c'est ce qui nous retient dans ce premier point, Sanctification, il nous rend purs, et rédemption, il nous pardonne. Christ est celui, quand on le reçoit, quand on met notre foi en lui, il est celui qui nous permet de devenir aux yeux de Dieu tels des hommes et des femmes qui pratiquent la justice. Il est, il devient pour celui qui place sa foi en Jésus, notre justice aux yeux de Dieu. La parole de Dieu signale que si Christ a donné sa vie, Christ est aussi ressuscité. Et c'est pour ça que nous pouvons le prier, c'est pour ça que nous pouvons nous adresser à lui cet après-midi encore en disant « Rends-moi juste, je suis coupable et pécheur, mais toi, rends-moi juste aux yeux de Dieu. Christ a donné sa vie pour cela, Christ est ressuscité pour nous ouvrir les portes du ciel et de l'éternité avec Dieu. » Amen. Si on poursuit dans le texte de Michée, le texte de l'Ancien Testament que nous méditons cet après-midi, « Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. » Et on a vu que Christ est celui qui nous permet de pratiquer cette justice. Mais le texte continue en disant « Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu aimes la miséricorde. » Dieu attend de nous que nous aimions la miséricorde. Savez-vous que à tout moment de notre vie, nous avons le choix, soit de la miséricorde, on pourrait dire faire le choix du pardon, soit le choix de la vengeance, du ressentiment. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu aimes la miséricorde. C'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Et devant vous cet après-midi, je vous raconte ce témoignage qui est loin d'être à ma gloire. Il y a quelques années de cela, j'étais un préadolescent, et un préadolescent qui aimait, qui j'aime toujours, mais qui aimait dévorer les livres. Et vous savez, il se passait quelque chose d'assez particulier quand je lisais, c'est que je m'enfermais dans une bulle et il fallait au moins une attaque nucléaire pour m'en faire sortir. Qu'est-ce qui se passe? Plongé dans ma lecture. Et je me souviens de ce moment où j'étais en vacances chez une de mes grand-mères et plongé dans un de mes nombreux livres, j'étais pris par ce que je lisais et puis un incident nucléaire est arrivé. J'ai entendu qu'il y avait de l'agitation, j'ai vu qu'il y avait de l'agitation, du bruit autour de moi. Je sors un peu de mon livre et je comprends qu'il se passe quelque chose de grave. Il y a juste dehors dans la cour des bruits, de l'agitation. Et moi, après adolescent, je devais avoir 12 ans, 13 ans, je sors pas vraiment dans la cour, mais je vais à un endroit où je sais qu'il y a une toute petite fenêtre qui me permettra de voir sans être vu. Et je me glisse derrière cette petite fenêtre et ce que j'ai vu m'a glacé. J'ai vu un de mes cousins, j'ai compris après ce qui avait provoqué cela. C'était un homme qui avait besoin de soins et de soins assez importants au niveau de son esprit. Et je vois cet homme-là, mon cousin, très grand, très très fort, très costaud, qui commence à s'énerver, à s'agiter. Ma mère essaye de l'apaiser, de le calmer, de trouver les mots. Et puis le ton monte et mon cousin s'énerve de plus en plus. Et il en vient à sortir un couteau, pas un couteau énorme, mais il en vient à sortir un couteau et à menacer ma mère. Moi, du haut de mes 12-13 ans, là, j'avais dans mon cœur quelque chose qui bouillait, je voulais intervenir, mais je ne m'en sentais pas du tout capable, je ne m'en sentais pas le courage. Et je suis resté là, derrière mon carreau, derrière ma fenêtre, et ce que j'ai vu m'a affecté. Et puis, avec le temps, j'ai compris qu'il y avait quelques ressentiments qui étaient venus dans mon cœur. Le ressentiment du fait que je n'avais pas réussi à intervenir, mais aussi du ressentiment envers mon cousin. Qu'est-ce qu'il a fait? Et pourquoi? Et ma mère ne méritait pas cela. Et devant ce choix-là, soit de la miséricorde, soit de la vengeance, ou du moins du ressentiment, eh bien, il me semblait que j'avais fait mon choix. Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu aimes la miséricorde. Quelqu'un dira un jour à Jésus, « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Est-ce qu'il faudrait que je lui pardonne 7 fois dans la journée? » Et Jésus dit, non, pas 7 fois, 70 fois, 7 fois. Si on va faire un lien avec les 2 textes de l'Évangile qui nous rapportent ce récit, on pourrait même imaginer que Jésus-Christ dit que c'est 70 fois, 7 fois dans une journée, 490 fois dans la journée. Oh! Imaginez, on fait un cas d'espèce, un cas de figure. C'est tôt le matin, vous vous réveillez à peine, vous êtes devant votre bol de café, et puis quelqu'un vient et il vous offense. Quelques minutes plus tard, « J'aurais pas dû, je te demande pardon. » Allez, d'accord, je te pardonne. Allez, montre en main. 10 minutes après, il revient nous voir. Deuxième offense. Quelques minutes après, je te demande pardon. Allez, je te pardonne. Mais faudrait pas que ça dure trop de fois dans la même journée, n'est-ce pas ? Jésus-Christ dit, mais ce que j'attends de toi, c'est que tu puisses être celui qui aime la miséricorde, celui qui pardonne. C'est pas simple. Mais dans ce texte-là du livre de Michée, je vois que Dieu n'attend pas simplement de nous la miséricorde, mais il attend que nous aimions la miséricorde. Je ne fais pas simplement cela parce que je dois le faire, mais je fais cela parce que j'aime cela, j'aime la miséricorde. Seigneur, c'est pas facile. Seigneur, devant ces choses, j'ai besoin de ton aide pour pardonner, pour faire miséricorde à celui qui pourrait m'offenser. Mais j'aime le message de l'Évangile. Je trouve dans la parole de Dieu, un Dieu non pas qui nous demande de faire des choses qui sont au-delà de nos forces et qui, du haut de son ciel, nous regarde en disant « Voyons voir s'il y arrive ». Je ne vois pas cela dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, je vois celui qui nous en montre l'exemple, celui qui nous accompagne sur le chemin de la réalisation de ce qu'il attend de nous. Si on va juste un peu plus loin dans le livre du prophète Michée, au chapitre 7 et au verset 18, nous lisons ceci. « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours. » Car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Amen. Voilà quel est le Dieu de la Bible. Voilà quel est le Dieu de l'Évangile. Il est celui qui, pour notre bien, nous invite à la miséricorde plutôt qu'à la vengeance, plutôt qu'au ressentiment, ces choses-là qui viennent dévorer notre cœur et qui viennent nous abîmer. Dieu veut nous mettre à l'abri de tout cela. Il nous invite à la miséricorde. Mais non pas comme un Dieu distant et lointain en disant « Maintenant, il faut que tu y arrives. » Mais comme un Dieu qui nous en montre l'exemple, comme un Dieu qui nous prend la main et qui nous accompagne sur ce chemin-là. Comme un Dieu qui nous aide à aimer la miséricorde. Comme un Dieu qui nous aime à pardonner. Il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour nous. Il l'a fait le premier. Ce Dieu qui prend plaisir à la miséricorde. Ce Dieu qui vient nous rencontrer, qui en Jésus prend nos péchés. Le texte nous le signale, qui le jette au loin, qui le jette au fond des mers. Ce Dieu qui nous permet, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, de repartir à zéro, de démarrer une vie nouvelle avec lui. Voilà le Dieu de l'Évangile, voilà le message de Jésus-Christ, celui qui nous accompagne pour nous permettre déjà de vivre véritablement ici-bas, selon ses valeurs, comme nous l'entendions tout à l'heure dans le témoignage, mais ce Dieu aussi qui prendra le croyant, qui prendra celui qui a placé sa foi en Jésus pour l'emmener dans le ciel éternel, dans le paradis, avec lui, pour l'éternité. Voilà quel est ce Dieu-là. Si on plonge encore nos regards dans ce texte de Michée, nous voyons une troisième chose que Dieu demande de nous, et nous avons compris qu'il nous la demande en nous donnant en fait les moyens d'accomplir ces choses. Nous lui disons une troisième chose, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. Pour commencer, relevons deux difficultés, marcher et avec. Vous me direz, vous qui êtes des gens sportifs et de la montagne, adeptes des randonnées, mais ce n'est pas si difficile que cela de marcher, c'est vrai. Quoique c'est plus facile au début de la randonnée qu'à la fin, remarquez, hein. Je crois qu'il y a une vérité spirituelle aussi. Dieu nous demande de marcher spirituellement, de lui offrir une vie qui lui est agréable. Et si, de manière ponctuelle, c'est quelque chose qui, ma foi, est relativement facile, je veux marcher avec Dieu, avec tout mon élan, tout mon zèle, tout mon courage, et toute l'énergie qu'il me donne, il y a des moments dans la vie où c'est plus difficile. Il y a peut-être des moments où nous avons arrêté notre marche. Il y a peut-être des moments, à cause des épreuves et des difficultés de la vie, où, Seigneur, je me suis arrêté, Seigneur, je me suis découragé, j'ai essayé, je me suis donné, mais là, ça ne va pas, là, j'y arrive pas. Première difficulté, marcher. Une deuxième marcher avec. Je ne suis pas un très grand sportif, peut-être que ça se voit. Mais j'ai entendu dire un jour qu'il était plus difficile de marcher avec quelqu'un que de marcher seul. Marcher seul, on se met à son propre rythme. Marcher à deux, il faut accepter aussi le rythme de l'autre. Et je crois qu'il y a là aussi quelque chose qui est vrai spirituellement. Ce n'est pas toujours évident de marcher avec Dieu. Il y a quelques fois où si on n'y fait pas attention, on pourrait essayer de marcher devant Dieu. Mais pourquoi tu ne réponds pas à ma prière? Pourquoi tu n'agis pas là? Et pourquoi la porte ne s'ouvre pas devant mes pas? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Plutôt que marcher avec Dieu, on chercherait à marcher devant lui. Peut-être d'autres fois où, si on n'y prend pas garde, on marche derrière lui. Vas-y, prends un peu d'avance, mais t'inquiète pas, je te suis. Et puis, un autre chemin, un chemin qui pourrait attirer nos cœurs, attirer notre convoitise, et là, Dieu est devant. Dieu demande de nous que nous marchions avec lui. Il y a quelques années de cela, avec mes parents et une famille de couple d'amis, nous avions fait une randonnée dans une grotte. Et le couple d'amis, enfin c'était nos deux familles ensemble, la première famille avait déjà fait cette randonnée dans la grotte. Ils en connaissaient le chemin et les accès. Et nous, nous découvrions cela et nous rentrons dans cette randonnée. Il fallait déjà arriver jusqu'à la grotte et nous y voilà arrivés. Il fallait maintenant rentrer par un endroit, passer par un chemin assez assez étroit, etc., pour sortir à un autre endroit. Et alors que nous étions engagés dans cette grotte, alors que nous commencions à avancer, la seule lampe de poche qui était en notre possession tombe en panne. Et tout d'un coup, il s'abat sur nous un noir des plus opaques. Alors, notre confiance est tout entière dans ceux qui marchent avec nous. Ils savent, ils connaissent. Et on va se fier à eux, mais il ne nous a pas fallu longtemps pour comprendre qu'ils étaient aussi perdus que nous. Il fallait trouver un tout petit endroit, là, un tout petit boyau dans la roche. Il fallait ramper pour passer dedans, mais c'est chose aisée de le faire avec une lampe torche. C'est beaucoup plus difficile de le faire là, à tâtons, contre la roche mouillée. Comme si cela n'était pas suffisant, ma maman craint les espaces clos. Et le fait de se sentir dans le noir comme ça, elle retenait l'expression d'une crise de panique. Et nous, enfants, on commençait non plus à pas être tout à fait rassurés. Finalement, l'histoire finit bien, on trouve le boyau, puis on peut sortir de la grotte, mais Seigneur, aide-nous à marcher avec toi, à la lumière de ta parole, à ne pas nous décourager quand nous avons perdu nos repères, à te faire confiance, à te confier encore nos vies pour continuer notre route et notre chemin avec toi. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions marcher aussi humblement, marcher avec, marcher humblement. Seigneur, aide-nous à le faire, à chaque instant. À chaque moment, aide-nous à marcher humblement. Le texte de 1 Corinthiens 10 nous rappelle que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Seigneur, aide-nous à être ces serviteurs fidèles qui marchent humblement devant, enfin avec toi, qui marchent humblement suivant tes recommandations à la lumière de ta parole. Et encore une fois, c'est la merveille du message de l'Évangile. Si nous lisons ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Nous voyons dans la bouche sous la plume du même prophète, nous voyons le fait que Dieu se propose de nous aider à faire cela. Encore une fois, il n'est pas ce Dieu assis sur son trône qui dit « Bon, est-ce qu'il va arriver à marcher avec moi humblement ?» Mais non, il est celui qui nous en donne l'exemple, il est celui qui nous en montre l'exemple. Si on va juste un peu plus loin au chapitre 7 et au verset 20, c'est la suite des versets que je citais tout à l'heure, nous lisons « Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. » Il y a ici quelque chose de merveilleux. Le témoignage de la fidélité de Dieu, depuis Jacob, depuis Abraham, et je crois qu'on pourrait même encore remonter. Dieu, depuis tant et tant d'années, marche fidèlement aux côtés des hommes. Depuis tant et tant d'années, Dieu se propose fidèlement de tenir notre main pour nous accompagner sur notre chemin pour accompagner notre marche. N'ayons pas l'image d'un Dieu qui dit « Allez, marche fidèlement !» Mais voyons-le en Jésus venir à nos côtés, venir nous rencontrer dans notre situation, dans nos douleurs. Il a vécu ces douleurs, il les comprend. Voyons Jésus-Christ à nos côtés. Marchez fidèlement sur le chemin que lui-même ouvrira devant nos pas. Depuis tant et tant d'années, dans son amour, Dieu se propose de marcher avec l'homme. Cet après-midi, parce qu'il n'a pas changé, parce que Dieu est toujours le même, à cause de son amour, Dieu se propose de marcher avec toi. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, tu as fait ta vie par tes propres forces, voulant essayer de t'en sortir, de réussir. Cet après-midi, Jésus-Christ se propose de prendre ta main et de faire chemin, de cheminer avec toi pour t'accompagner. C'est maintenant à toi de prendre la décision. C'est sa proposition. C'est lui qui propose cela, mais à toi de l'accepter ou de le refuser. Nous avons entendu tout à l'heure que mon épouse, depuis plusieurs années maintenant, a fait ce choix-là. J'ai fait ce choix-là. Et si je passais le micro, ça serait un peu difficile là, mais si je passais le micro dans la salle cet après-midi, nombreux seraient ceux qui pourraient nous dire « Mais Christ m'accompagne sur ce chemin. » Christ est celui qui m'aide à aider la miséricorde. Christ est celui qui a pris mon péché et qui m'aide à pratiquer la justice. Il est ma justice aux yeux de Dieu. Christ est celui qui fait tout cela dans nos vies et Christ est celui qui veut faire cela dans la tienne cet après-midi. Très rapidement, je m'arrête sur le début de ce passage. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Je crois qu'il y a dans ce livre tout ce que nous avons besoin de connaître sur ce qui est bien. La parole de Dieu, ce livre très précieux, nous renseigne sur ce qui est bien, sur ce qui nous permettra ici-bas d'être épanouis. Elle nous renseigne sur le message de l'Évangile, ce message que nous avons essayé bien humblement de vous présenter cet après-midi. Christ est venu nous rencontrer, lui le juste, le pur, le sans péché, a donné sa vie, il s'est chargé de nos iniquités pour que nous n'en ayons pas à porter la condamnation de ses péchés, il l'a porté à notre place. Christ est ressuscité et il veut nous accompagner sur le chemin de la vie. Christ, celui qui a obtenu notre pardon, Dieu a jeté nos péchés au fond des mers et celui qui veut nous aider à aimer la miséricorde et nous aider à faire miséricorde autour de nous. Alors, on t'a fait connaître aux hommes tout ce qui est bien. Dieu ne met pas devant nous des choses qui nous sont inatteignables, mais ce qu'il attend de nous, c'est la foi en Jésus. Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je te confie ma vie. Viens me pardonner, viens m'accompagner sur le chemin, viens m'aider à aimer la miséricorde, et Christ fera toutes ces choses en nous. Je crois, pour résumer, que ce que Dieu attend de nous, c'est la foi dans ce message. Christ, je crois ces choses, je m'abandonne à toi. La parole de Dieu nous dit que si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu, que si nous croyons, nous sommes sauvés. Alors portons foi dans ce message. Il n'est pas message d'homme, mais il est message divin pour le salut de quiconque croit. Amen. Seigneur, merci. Merci de ce que tu as donné Jésus pour